Croyez-vous que Dieu puisse bénir quelqu'un dont nous n'aurions pas eu connaissance du besoin? Jésus intercède à la perfection. Il est notre avocat auprès du Père. Nous aurons justement, juste après ce culte, jusqu'au culte prochain, c'est-à-dire cet après-midi, 15h30, un jeûne et prière pour tous ceux qui le peuvent et qui veulent combattre le bon combat de la foi. Ouvrons ensemble la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans la lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens, la deuxième lettre, au chapitre 2 et au verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Ici, Paul est en train de donner un aperçu synthétique, mais bien éclairé sur le monde, on pourrait dire, d'aujourd'hui, celui qui nous concerne, le monde apostasique. Et il parle notamment de l'apostasie, un mot qui apparaît là dans la lettre de Paul, mais qui apparaît aussi une seconde fois. On ne le voit pas bien en français, mais dans le texte original, il y est, dans les Actes des Apôtres, l'apostasie qui frappera le monde dans les derniers temps. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi, mais dans le sens d'un abandon délibéré et voulu. Bien sûr, il y a des gens aujourd'hui qui disent « à cause d'une circonstance et d'une épreuve, j'ai abandonné la foi ». Mais l'apostasie signifie un détour du centre de Dieu, se détourner de Dieu, se détourner de la foi, ce qui signifie tout simplement que tous ceux qui auront abandonné Dieu n'auront aucune excuse ou aucun prétexte valable d'avoir abandonné la foi. Parce que lorsqu'on s'attache à Dieu, et nous l'avons entendu ce matin, Dieu aussi fait alliance avec nous. Et la Bible nous dit qu'il est fidèle et que nul ne nous ravira de sa main. Donc pour être ravi de sa main, il faut vraiment avoir ce détour, ce désir de sauter de la main de Dieu, se détourner littéralement, abandonner volontairement la foi. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, un monde apostasique. Non seulement l'Écriture dit que tous auront entendu parler de Jésus lorsqu'il reviendra, la parole de Dieu aura parcouru, l'Évangile aura parcouru toutes les contrées, mais elle nous dit aussi que tous ne seront pas sauvés. Alors, si nous attendons le retour de Jésus, ce n'est pas avec des paroles qui signifierait « Jésus reviendra quand tout le monde sera chrétien ». Mais c'est peut-être le contraire, justement, parce que la Bible nous dit que quand Jésus viendra, et nous venons de le lire, l'apostasie sera son paroxysme. Et justement, celui qui viendra sera l'impie, l'antichrist, celui qui essaiera de ravir même les élus. Voilà pourquoi le Seigneur nous met en garde. Non seulement tous ne seront pas sauvés, malheureusement. Et raison pour nous, justement, d'être des témoins vivants, de marcher dans la foi, d'être appuyés sur la parole de Dieu, de briller de la lumière de Christ jusqu'à son retour, afin que le maximum soit sauvé. Mais pire encore, la majorité n'acceptera pas le message de Jésus. Par exemple, nous pourrons lire, chez nous, tout le chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. C'est un des chapitres qui nous explique cela. Non seulement les gens rejetteront la saine doctrine, les gens refuseront Jésus, ça c'est le monde des derniers temps, et alors nous pouvons nous questionner si nous n'y sommes pas, et il me semble quand même que nous y sommes de plus en plus, mais pire encore, la Bible nous dit que beaucoup abandonneront la foi, et beaucoup de chrétiens apostasieront, se détourneront. Paul parle notamment justement de plusieurs personnes qui ont abandonné la foi. Alors, mes frères et sœurs, le but ce n'est bien sûr pas de dresser un tableau noir, mais c'est de nous encourager. C'est que l'Esprit de Dieu vous encourage ce matin. Peut-être quelqu'un qui est au bord de l'essai. Résister à la pression du monde apostasique qui est là parce que Jésus vient bientôt. La Bible nous dit qu'il y aura l'apparition de l'Antéchrist, au paroxysme de l'apostasie. Dans les derniers jours, Jésus dit par exemple... il y aura la séduction de l'erreur. Paul dit à Tite que quelques-uns abandonneront la foi, mais tenez-vous bien, pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, des gens qui auront connu Jésus. Les gens et les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Supportons-nous la saine doctrine, même quand la parole de Dieu nous dit quelque chose que nous ne comprenons pas. Même quand la parole de Dieu nous enseigne un commandement qui nous est difficile, supportons-nous la saine doctrine. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, les hommes détourneront l'oreille de la vérité. Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit de Dieu nous parler, nous dire la vérité? C'est exactement le témoignage que nous a donné tout à l'heure notre frère, Monsieur de Dieu, sur l'Esprit de Dieu qu'il a éclairé sur un problème qu'il devait régler. Eh bien, des fois, nous ne pouvons avancer, nous nous laissons certainement plus attirer comme une aspiration par ce monde apostasique parce que nous n'acceptons pas la vérité. Pourtant, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Il y a un mensonge à régler. Il y a une demande de pardon à faire. Il y a une réconciliation à avoir. Et plus on s'endurcit, plus le cœur s'endurcit, plus on s'éloigne de Dieu et plus on est aspiré par l'apostasie, sans même s'en rendre compte, parce que l'apostasie, c'est aussi l'homme qui détourne son oreille de la vérité. La Bible nous dit que Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et l'Esprit de Dieu qui viendra lorsque moi je serai parti, il vous rappellera toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité. Alors, à cœur ouvert, nous pouvons dire oui, Esprit de Dieu, conduis-moi dans la vérité. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Dans les derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, beaucoup de mouvements, beaucoup de groupes, beaucoup de gens religieux cherchent à fonder leur association, à fonder leur mouvement selon leurs propres désirs. Dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Seigneur, fasse que nous n'ayons pas à dire dans les derniers temps, les chrétiens aimeront le désir plus que Dieu, leur propre plaisir. Dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Alors c'est un avertissement au monde apostasique. Et mes frères et sœurs, oui, nos vœux ce matin, c'est que nous fassions tous partie du grand voyage, quand le Seigneur reviendra. Et pour cela, Dieu nous demande de résister à cette pression du monde apostasique. La Bible nous dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger, ou détruire. Et si le diable venait en personne avec peut-être une apparence néfaste, une apparence horrible ou terrifiante, certainement beaucoup ne tomberaient pas dans ces pièges. Mais c'est justement avec subtilité que le diable va venir pour essayer de ravir même les élus. Et c'est justement en essayant de pousser le monde vers cette apostasie qu'il va essayer de faire rentrer les chrétiens, les enfants de Dieu, dans cette façon de vivre, se détourner de la foi, abandonner la foi. Alors nous allons lire un verset qui est significatif et que Jacques nous a donné au chapitre 4, au verset 6 et 7. Jacques chapitre 4, versets 6 et 7. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Soumettons-nous à Dieu, résistons au diable et il fuira loin de nous. Le diable est, selon l'expression que Paul donne aux Éphésiens, le prince de la puissance de l'air. Ne trouvez-vous pas que l'air est pollué, dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisque nous ne respectons même plus la planète, donc que ce soit au plan matériel, écologique, mais bien plus loin, au plan spirituel, l'air est pollué. Au plan de morale, l'air est pollué. Plus aucune moralité, plus aucun respect, c'est l'apostasie qui est en train de gagner le monde entier. Et une pression s'exerce, c'est pourquoi nous devons rester vigilants. Une pression est exercée même sur les petits-enfants, la pression du monde apostasique. Mais Dieu est puissant et nous demande de résister à cette pression-là, vaincre par notre foi, nous allons le voir par un autre verset plus tard, et alors nous triompherons, nous vivrons libres par l'Esprit. Ce verset nous l'explique bien, puisqu'il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Pour résister au diable, pour résister même à la pression de ce monde apostasique, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. La pression est même sur les petits-enfants. Témoignage d'un jeune enfant, alors qu'il était même dans une crèche, voyez, donc 3 ans, je crois. Et il y a eu un problème parce que dans la crèche, ils ont fêté Halloween. Et tous les parents et tous les enfants étaient déguisés en monstres et autres, sauf cet enfant dont les parents avaient dit non, tu ne seras pas déguisé en monstre, et Halloween, tu ne le fêteras pas. Il lui avait expliqué, bien sûr, avec beaucoup de tact, et il lui avait fait comprendre. L'enfant avait compris, les enfants ne sont pas bêtes, hein. Ils comprennent. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que lorsqu'il est arrivé, il était bien sûr le seul enfant. Et peu à peu, les jours suivants, alors que ça avait créé des tensions avec les personnes responsables, cet enfant a été mis à l'écart. Cet enfant était moqué par les autres. Cet enfant était exclu. Je crois que Dieu a béni les parents, a su leur donner les mots pour l'encourager, pour l'entourer, et ça s'est rentré dans l'ordre. Mais voyez, même sur un petit enfant de 3 ans, la pression du monde apostasique, elle arrive. Et si nous n'avons pas les yeux ouverts, nous ne le verrons pas, et nous ne le cernerons pas. Sur les adolescents, un jeune adolescent me racontait dans un camp d'adolescents, qu'il vivait justement durement sa vie au collège parce qu'il avait choisi de ne pas gambader avec les jeunes filles comme ses copains. Il avait choisi de se garder, et alors ce qui en résultait, c'est qu'il était mis à l'écart, il était exclu, il était jugé, il était condamné, il y avait une pression qui s'exerçait sur lui. J'aimerais vous dire que cette pression qui s'exerce derrière, c'est le diable qui le fait. Voilà pourquoi Dieu nous dit « soumettez-vous à Dieu, résistez au diable ». Le diable voudrait qu'on fasse des compromis, qu'on entre dans le compromis, et c'est comme ça qu'il va réussir à séduire même les élus. Et nous sommes dans les temps de la fin, il faut le dénoncer, il faut en parler. Un jeune garçon témoignait alors qu'il était dans une faculté, et qu'à la faculté, il faisait régulièrement, toutes les semaines, des soirées des soirées où, bien sûr, les jeunes dansaient toute la nuit, où il y avait de l'alcool, il y avait de la drogue qui circulait, et tout ce qui s'en suivait, bien sûr, comme débauche et déchéance. Et tous les soirs, alors qu'il se tenait dans sa chambre, il avait une bande de jeunes qui venaient frapper à sa porte pendant 3 quarts d'heure, jusqu'à ce qu'il cède pour aller avec eux. Et il expliquait que Dieu lui a donné de ne pas céder, mais qu'il avait reçu, qu'il avait ressenti pendant tous ces moments une véritable pression. Une pression, comme si l'ennemi lui disait « cède juste une soirée, cède juste un moment, mais qu'est-ce que ça va te faire de mal ? Et après tout, qu'y a-t-il de mal d'aller danser ? Et après tout, est-ce vraiment mal de se réjouir avec ses amis ?» Et ce jeune homme a résisté, mais ils étaient deux. Et il y en a un qui s'est laissé influencer, et le résultat, c'est que aujourd'hui, ce jeune homme regrette, il est loin de Dieu, pourtant il croit. Mais c'est comme s'il avait un lien qu'il tenait, qu'il attachait. Il est tombé dans la débauche, il est tombé dans l'impudicité. C'est un jeune garçon qui a beaucoup souffert et qui aujourd'hui se dit « Mais je sais que tu n'étais pas meilleur que moi, mais j'ai fait un choix différent. » Il s'est laissé happer par le monde apostasique. Aujourd'hui, les enfants, les adolescents, les jeunes sont sous cette pression. Mais j'aimerais aussi dire que les couples sont sous cette pression. Les familles sont dans cette pression. Divorce ! C'est si facile aujourd'hui. Ça ne va pas dans ton couple ? Tu n'as qu'à divorcer. Et puis tout le monde fait cela aujourd'hui. Tu ne seras pas un intrus. Oh, d'ailleurs, les gens du monde te diront « Vas-y, divorce. Moi, à ta place, j'aurais divorcé. » Voilà la voix du diable. Voilà ce que l'ennemi dira. Ça va si vite. La pression que Satan exerce par le monde apostasique, où aujourd'hui, le divorce est devenu monnaie courante. Est devenu monnaie courante au dehors, mais de plus en plus dans l'Église. Entendons-nous bien, je ne juge personne qui a divorcé. Je crois que Dieu est celui qui est venu en Jésus-Christ pour sauver les perdus, pour restaurer les cœurs brisés, pour relever ceux qui sont malades et qui ont vécu quelque chose de difficile et de dur. Mais je crois que Dieu est celui aussi qui a la solution. Et en tant que chrétien et croyant, lorsque nous avons rencontré celui qui est le Fils de Dieu, le Messie, nous avons autre chose que de penser de suite au divorce. Nous avons à penser à la solution. Nous avons à crier à Dieu. Nous avons à gémir auprès du Seigneur afin qu'il y ait des pardons dans les couples, afin qu'il y ait des réconciliations, afin que les cœurs fondent devant Dieu, pleurent et écrivent des lettres comme notre frère l'a dit. Et je crois que nous devrions tous être à la même enseigne, capables de dire oui, un jour j'ai écrit une lettre pour demander pardon. Un jour, j'ai pris mon téléphone pour demander pardon. Un jour, alors que mon couple allait se briser, je suis allé voir ma femme et je lui ai dit non, ne faisons pas cela. Le Seigneur a la solution. Même s'il n'y a pas d'impasse pour nous, et même si humainement tout est maintenant difficile, Dieu, lui, est tout-puissant. Amen. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Et nous avons même vu, et je prends ce témoignage parce qu'il me vient maintenant, une sœur avancée en âge qui marche maintenant avec le Seigneur depuis plus de 40 ans et qui me donnait ce témoignage alors que son mari la battait, alors que son mari lui a fait tant de mal, elle a résisté. Elle a résisté, c'est vrai, parce que Dieu l'avait mis dans son cœur et Dieu lui avait donné une conviction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a prié et il y a eu transformation et miracle. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les cœurs brisés, guérir les malades. Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. N'est-ce pas une résurrection lorsqu'un couple est en train d'être brisé, mais que Dieu le restaure ? Et qu'il y a un nouvel amour qui vient ? N'est-ce pas une résurrection lorsqu'une famille est disloquée ? Et qu'un enfant qui était perdu, comme le jeune fils prodigue, et qui est revenu vers son père, et revient vers son père, et qu'il y a réconciliation. C'est une résurrection. Puisque la Bible nous dit dans cette parabole que cet homme, ce père, va dire et s'exclamer « Mon fils était mort, et il est revenu à la vie ». résurrection. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps apostasique, et je dirais justement, par opposition, nous chrétiens, nous devons vivre dans le miracle et dans la résurrection, dans la guérison. Nous devons, nous voulons voir ces choses au milieu de nous. Nous avons aussi des situations qui nous montrent la pression exercée dans le milieu professionnel et dans le milieu du travail. Je donne des témoignages très courts, avec quelques mots, mais qui vous donneront de comprendre. Colère et méchanceté sur un employé. Pleurs et dépression à cause d'un harcèlement. Compétition et rendement jusqu'à épuisement. Vulgarité et grossièreté envers une jeune femme qui a décidé de quitter son travail. C'est ce qui atteint et ce qui se développe de plus en plus dans le monde professionnel. C'est l'apostasie. Seigneur, as-tu une parole pour moi? Quelqu'un a-t-il vécu cela dans la parole de Dieu, dans la Bible? Quelqu'un qui te connaissait? Lisons Psaume 55, versets 3 et 4. Nous aimons les psaumes, n'est-ce pas? Ils sont des louanges. D'ailleurs, le livre des psaumes signifie le livre des louanges, le psaume des hallels. Et le psaume 55, versets 3 et 4, nous parle d'un homme qui est en train de livrer son cœur. On aime les psaumes parce que ce sont des louanges, mais les psaumes sont aussi l'expression de l'âme de l'homme. Et il y a des hommes qui donnent des paroles étonnantes dans les psaumes. Et on se dit, mais comment cela se fait-il que c'est écrit dans la Bible? C'est simplement un homme qui s'exprime et qui est en train de répandre son cœur devant Dieu. Psaume 55, verset 3, « Écoute-moi, réponds-moi !» Qui n'a jamais dit cela en ayant l'impression que Dieu ne l'entendait pas? « Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur. » Notre version dit « à cause de la pression de l'impie, à cause de l'oppression du méchant ». Et vous le savez comme moi, c'est une réalité aujourd'hui. L'issue humaine que l'on peut trouver, c'est la maladie, l'arrêt, la dépression, la démission, la querelle. Vous savez ce psaume 30, verset 33, qui dit de prendre garde parce que la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit la querelle. Et combien aujourd'hui sont tombés dans la querelle à cause de ces difficultés du monde apostasique, à cause de ces attaques de l'ennemi, on est tombé dans la querelle, dans l'amertume, on est tombé dans la rancœur envers même une seule personne. Mais vous savez, nous connaissons une autre personne dans la Bible qui avait de la rancœur envers une personne, une seule. Et cela suffit pour devenir un meurtrier. Vous savez, le fils d'Adam, Caïn, qui a tué son propre frère à cause d'une racine, d'une amertume qui était là dans son cœur. Le diable exerce une pression pour que le péché entre dans notre âme, pour qu'il y ait de l'amertume, pour qu'il y ait de la rancœur, pour que nos pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, comme le psalmiste qui dit « Quand des pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, cela ne vous est-il jamais arrivé ?» Des moments où on ne peut pas se concentrer. Des moments où même quand on essaie de prier, les pensées s'agitent en foule. Des moments où toute la journée, on ne pense qu'à une chose parce qu'on a été atteint dans son cœur, atteint dans son âme, meurtri parce qu'on est en conflit. Des pensées qui s'agitent en foule. Mais ce psalmiste continue en disant, quand ces mille soucis ou ces pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et une autre version dit, tes consolations recréent mon âme. Dieu est le Créateur. Dieu est celui qui ramène à la vie. La pression. Mes frères et sœurs, Dieu veut nous donner de résister à cette pression. Le peuple de Dieu a connu cette pression. Vous rappelez lorsqu'il était sous l'égide du Pharaon, peuple d'Israël. La Bible nous dit qu'on a établi sur ce peuple des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Et au verset 14, cela faisait longtemps, il les réduire à une dure servitude et leur rendait la vie amère par de rudes travaux. Et c'était avec cruauté qu'on leur imposait toutes ces charges. Ils firent monter vers Dieu des cris, des gémissements. Mais cela n'est pas arrivé de suite. La victoire, la délivrance n'est pas arrivée de suite. Il nous est dit longtemps après, alors que leurs cris et leurs gémissements montaient encore vers Dieu, Dieu est venu. Et d'ailleurs, Dieu va prononcer des paroles merveilleuses. Il a dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris et je suis descendu pour le délivrer. C'est ce que Dieu voudrait faire pour quelqu'un ce matin. Dieu a vu, mais Dieu a-t-il entendu? Ton cri est-il monté jusqu'à lui? Ton cri est-il resté un gémissement qui tombe à terre ou une voix qui monte vers l'Éternel, comme ce serviteur de qui nous est dit qu'aucune de ses paroles ne retombait à terre sans que Dieu ne les ait prises et exaucées? Gédéon. La pression. La pression est... Tellement d'exemples me sont venus, mais je ne voudrais pas être trop long, alors je vais synthétiser, mais je sais que vous connaissez ces passages. Rappelez-vous de la pression qui a été exercée sur Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons ont été jetés, mais pourquoi? Parce qu'à la base, il y a eu idolâtrie, volonté d'idolâtrie, une grande statue, il fallait l'adorer. Et eux ont refusé de se prosterner. Et le résultat, ça a été une pression. Une pression forte. Voilà ce que l'ennemi essaie de faire. Si tu ne te prosternes pas, si tu ne fais pas de compromis, il y aura une pression que je vais exercer sur toi. Voilà ce que l'ennemi fait. Et cela entre même parfois dans les maisons, sans même que les personnes entrent dans nos maisons. Je m'explique, Internet, la télévision, les arts magiques, et etc. Et lorsqu'on voit tout cela se développer dans les foyers, on se rend compte comment l'ennemi a réussi à entrer. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin, à marcher par la foi, à triompher par l'esprit. Mais si on laisse le monde apostasique prendre le dessus sur nous, notre foi tombe à l'eau. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, c'est se détourner de la foi. Alors que Dieu nous dit, mais pour résister, il faut se soumettre à Dieu. Voilà ce qu'ont fait les compagnons de Daniel et Daniel. Ils se sont soumis à Dieu. Daniel, dans un autre temps aussi, il nous l'est montré. Ils se sont abandonnés. À Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. J'aimerais faire une parenthèse, peut-être pour une personne qui n'est pas à Jésus ce matin, qui n'est pas engagée, qui n'a pas pris la Sainte-Seine parce qu'elle n'est pas passée par les eaux du baptême, confessant le nom de Jésus comme Sauveur et Seigneur. J'aimerais vous dire que beaucoup d'entre vous viennent nous voir, nous les accueillons avec affection et attention. Et j'entends souvent ces personnes me dire « Délivrez-nous ». Je suis oppressé, je suis tourmenté, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de liberté. Mais lorsqu'on leur dit, soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à la parole, alors oui, mais moi j'ai besoin de délivrance, c'est de ça dont j'ai besoin. J'aimerais vous dire, Dieu vous délivrera, Dieu vous libérera si vous vous soumettez à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et entrez dans la bergerie. Connaissez Jésus, entendez les paroles qui ont été chantées et acceptez l'appel du Sauveur. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable qui essaie de vous attirer. Bien sûr, c'est une parole pour les chrétiens, mais j'aimerais aussi encourager ceux qui viennent pour l'une des premières fois. Daniel et ses compagnons, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Le roi avait été tellement furieux qu'il a chauffé 7 fois plus. Et la parole de Dieu nous dit que le roi lui-même, lorsqu'il va venir voir, parce qu'on lui a dit, mais ils ne sont pas morts, il leur dit, je vois. C'est une parole qui m'a interpellé lorsque je relisais le texte. Je vois quatre hommes. Parce que le quatrième a une figure comme celle des fils de Dieu. Il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. L'ange de l'Éternel était là. Beaucoup s'accordent à dire que c'est une christophanie, c'était Christ lui-même. Parce que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ qui était là auprès d'eux. Mais comment ont-ils pu triompher? Parce qu'ils se sont soumis à Dieu. Et ils se sont abandonnés à Dieu. Et là, il y avait une pression qui était exercée. La Bible nous dit, et c'est 1 Jean qui nous le dit, chapitre 5, verset 4, c'est notre foi qui triomphe du monde. Et eux, ils avaient la foi, parce qu'ils vont dire à ce roi, nous ne t'adorerons pas, nous ne nous prosternerons pas, car notre Dieu nous délivrera, sinon sache que nous ne nous prosternerons pas. Ça voulait dire, nous ne nous prosternerons pas, nous resterons soumis à Dieu, parce que Dieu va nous délivrer. Et quand bien même Dieu ne nous délivrerait pas, on ne se soumettra pas. Tiens, c'est quand même extraordinaire. Ils ont choisi de mourir plutôt que d'accepter l'idolâtrie. Dieu avait dit, fuyez l'idolâtrie. Ça m'a fait penser à un verset qui nous est donné dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Au verset 10, on peut le prendre parce que c'est un passage merveilleux qui nous parle de la victoire, du triomphe. Ce qui nous donne de triompher de ce monde apostasique, c'est notre foi. Et notre foi, elle est basée sur les promesses de Dieu. Notre foi sur la parole, notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ qui est glorifié. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Quel bel exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. On peut prendre Daniel plus tard, la pression aussi. Il a choisi de n'adorer que Dieu, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais sa vie étant abandonnée entre les mains de Dieu, soumis à Dieu, eh bien Dieu l'a gardé parce que là encore, Dieu a envoyé son ange selon la parole même de Daniel. Christ était avec lui. La pression du monde n'aura pas de force contre ceux qui marchent par la foi. La pression du monde n'aura pas de puissance contre ceux qui sont soumis à Dieu. Et enfin, la pression du monde n'aura pas de force contre ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Dites-moi, cette histoire de David et Goliath, quand nous voyons comment Goliath vient insulter le peuple de Dieu, n'est-ce pas une pression exercée? Une pression exercée sur le peuple, puisqu'il nous disait dit qu'il venait quand? Matin et soir, pendant 40 jours, à défier le peuple. Donnez-moi un homme, donnez-moi un homme. Il voulait enlever la force du peuple de Dieu, qui ne se situait pas en un homme, mais Dieu a toujours voulu qu'on travaille dans l'unité et qu'on travaille ensemble, afin que la gloire ne se retire pas, ne revienne pas à un homme. Seulement devant cette peur, devant cet effroi et ce recul du peuple, alors Dieu a quand même suscité un homme, mais avec de faibles choses. Devant l'armure, devant l'impressionnant Goliath, Dieu a suscité David. David vient, et là il va dans le torrent. Cela nous parle de ceux qui seront vainqueurs sur les géants, qui triompheront du géant. Aujourd'hui, le monde apostasique, c'est un géant. Aujourd'hui, beaucoup de défis, beaucoup de décisions devant nous sont comme des géants. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mon enfant veut faire un sport de combat violent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire oui ou je vais dire non? Je suis devant un dilemme, un défi. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce que je vais faire? On a offert un CD avec des arts magiques à mon enfant. Oh, ce n'est qu'un dessin animé, mais qu'est-ce que je vais faire? On présente un sorcier qui est tout gentil. Qu'est-ce que je vais faire? Le monde apostasique essaie de nous aspirer. Et là, nous voyons comment on peut triompher par la foi. David, lui, il plonge sa main dans le torrent. Et il va prendre 5 pierres polies. Voilà le triomphe du chrétien dans ce monde. Plus on est soumis à Dieu, plus on est libre. Plus on est esclave de Christ, plus on est libre. C'est ce paradoxe étonnant, mais qui fait partie de la réalité de l'Évangile. David, lui, il s'est levé et il a plongé sa main dans le torrent. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu es peut-être happé, tenu, empêché d'avancer. Tu le sais que tu es aspiré par ce monde. Tu es en train d'abandonner la foi. Ton couple est brisé. Tes enfants sont à la dérive. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager à plonger ta main dans le torrent, à plonger ton corps dans le torrent, à venir aux pieds du Seigneur. La Bible nous dit, et nous l'avons lu ensemble, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce qui nous donne de triompher, c'est Jésus-Christ. En réalité, celui qui a connu la plus grosse pression, c'était Jésus. N'est-ce pas Jésus qui a connu la pression du monde? N'est-ce pas Jésus qui a connu la pression de ses disciples? Arrière de moi, Satan. Jésus a-t-il dû dire à un qui lui disait « Ne va pas à la croix » sans savoir qu'il était animé de cette pensée-là. La pression de ceux qui étaient autour, tout le monde l'a abandonné, la solitude. La pression du monde religieux à qui Jésus a dû dire « Hypocrite, pharisien ». La pression de Satan qui vient dans le désert, 40 jours, encore tiens, comme Goliath, 40 jours de défi, 40 jours où l'ennemi est venu pour le tenter. Mais Jésus a résisté à cette pression. Pression telle qu'à son paroxysme là, dans le jardin de Gethsémané, les veines éclatent et le sang coule de son front. Oh, le sang avait coulé. Même Satan aurait pu lui susurrer cette parole. Le sang a coulé, c'est bon, tu peux y aller. Mais Jésus a dit non, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'à la croix. Et le sang, il a décidé, Jésus, que son sang coule sur le bois de la croix, au calvaire. Il est celui qui a résisté à toutes les pressions du monde, qui a résisté à la pression de l'ennemi, qui a résisté au diable pour nous rendre plus que vainqueurs. Il a livré les puissances et les dominations en spectacle. Il est le vainqueur. Et il nous dit, nous pouvons triompher en lui, parce que c'est lui qui a vaincu. Nous devons donc demeurer en lui. Et voilà ce que David faisait. Il se plonge dans le torrent, il demeure en Dieu. Avant d'aller voir Goliath, avant d'aller vers l'ennemi, d'abord, il va au torrent. Il prend 5 pierres polies. 5, mais une seule suffira. Une seule. Comme nos paroles, lorsqu'elles sont guidées par l'Esprit de Dieu. Une petite pierre qui vient dans le front du géant, et le géant est abattu. Quand la parole est conduite par l'Esprit de Dieu. Je me souviens de cet homme qui faisait d'ailleurs justement 2 mètres, qui était impressionnant. Il sortait de prison, il avait vécu des choses terribles et il avait commis des choses terribles. Il faisait peur à tout le monde. Il était venu, je me souviens, dans l'église. Moi, j'étais encore tout petit. Aujourd'hui, c'est un ami. Il avait des tatouages partout et il les montrait. Et c'est vrai que beaucoup tremblaient un petit peu. Et puis il a essayé d'intimider un ancien à la sortie, en se rebellant, en commençant à être agressif. Il n'était pas possédé, non. Mais il était animé d'un esprit mauvais, il était plein de haine, il était sous l'égide de l'ennemi, plein de violence et d'agressivité, comme aujourd'hui nous vivons dans un monde qui vit sous les clous. La communication de la violence, les clous qui ont cloué Jésus. Cet homme, un ancien est venu le voir, il était tout petit, il tremblait un peu, il avait une canne, il lui a prononcé une parole. C'est dommage, je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit, parce que je ne m'en souviens pas. On me l'avait rapporté, mais enfin j'étais petit. Je sais une seule chose, c'est qu'une seule parole, et cet homme a commencé à se calmer, et il a fini par fondre en larmes. Une phrase. Peut-être aujourd'hui, personne ne se souvient de ce qui a été dit. Mais tous savent que c'était une petite pierre conduite par l'Esprit de Dieu dans le front de Goliath. Cet homme s'est effondré et aujourd'hui, il sert le Seigneur avec son épouse, avec sa famille. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu là, eh bien, un chrétien qui avait choisi de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui a triomphé, c'est pourquoi il nous faut demeurer en lui. Comme David, demeurer avec Dieu. David marchait avec l'Esprit de Dieu, nous en avons la preuve, parce que lorsque nous voyons la vie de David, il nous est dit qu'il était celui qui déchirait l'ours, qui déchirait le lion, qui arrachait la brebis de sa gueule. Mais pourquoi ? Il était seul, là, dans les montagnes, avec son troupeau. Non, seul, non. Parce qu'il demeurait en Dieu. Lui qui était ce berger, il avait un berger. Mes frères et sœurs, ceux qui triomphent du monde apostasique, qui essaient d'entrer dans l'Église, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos cœurs, c'est notre foi en Jésus. C'est notre soumission et notre abandon total à Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Mais comment pourrions-nous lancer cette petite pierre que David a lancée? Comment pourrions-nous lancer une parole de l'Esprit, une parole puissante, une parole de délivrance si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit? Et si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit? Aspirons-nous à ces choses, mes frères et sœurs? Et vous, amis qui êtes inconvertis, je vous encourage à vous soumettre à Dieu, parce que nous vivons des temps où le monde va essayer de vous aspirer. Et nous avons lu dans le texte la fin, le sort de ceux qui accepteront ce monde apostasique, c'est la condamnation, parce qu'ils n'auront pas voulu se soumettre à Dieu. Mais gloire, victoire, triomphe pour ceux qui seront libres, pour ceux qui marcheront par la foi, pour ceux qui se soumettront à Dieu et qui seront guidés par l'Esprit de Dieu. Un dernier exemple, je pense en ce moment aux Actes des Apôtres. Ils n'avaient-ils pas une pression ? Alors qu'on était en train de dire, et c'était le Sanhédrin, le tribunal de l'époque, on va vous battre de verges et vous jeter si vous continuez à évangéliser. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La puissance du Saint-Esprit. Et chaque jour, des âmes s'ajoutaient. Et chaque jour, il y avait des miracles et des guérisons. Alors Dieu opère. Dieu est là. Courbons-nous, s'il vous plaît. Inclinons-nous quelques instants. Il y a quelqu'un peut-être qui a besoin d'être fortifié dans sa foi. Quelqu'un qui a besoin, comme Daniel ou comme ses compagnons dans la fournaise, d'être abandonné entre les mains de Dieu, soumis à Dieu, soumis à sa parole. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour triompher de ces compromis qui lui sont toujours proposés. Mes frères et sœurs, je vous invite à lever votre main à votre place. Nous allons prier ensemble. Je crois que Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu a vu, Dieu a entendu et Dieu est maintenant descendu pour délivrer ceux qui sont enchaînés. Notre Dieu, notre Père, nous nous tenons devant toi. Nous sommes conscients des temps de la fin que nous vivons, mais tu viens bientôt. Le monde apostasique est là. L'abandon de la foi, l'idolâtrie, l'orgueil de l'homme, le désir de se détourner de tes commandements. Mais nous, nous voulons combattre le bon combat de la foi. Nous voulons marcher par l'Esprit de Dieu. Nous voulons nous soumettre à toi parce que tu as des paroles à nous dire. Dans notre assemblée, nous te prions de réconcilier les couples. Au milieu de nous, nous te demandons de restaurer ceux qui sont malades, de guérir ceux qui sont atteints dans leur corps. Nous te demandons de relever ceux qui sont abattus. Te demandons de toucher le cœur de nos adolescents. Te demandons d'aider les jeunes à rester fermes dans leur foi et de nous aider les uns les autres à résister à ce monde, résister au diable. Je prie particulièrement pour ceux qui ont levé leurs mains, croyant que maintenant ils reçoivent de toi une part particulière. Tu veux les remplir du Saint-Esprit afin qu'ils puissent, comme David, vaincre ces géants et faire tomber les Goliaths pour le triomphe de celui qui a tout accompli à la croix, Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Maître, au nom de Jésus. Amen.